Et bienvenue à tous sur Esprit Occitanie pour un nouveau numéro de L'Oreille sur l'Acti, présenté par moi, Shana Oudjani, avec Lilou Saint-Viteux et bien sûr Hugo, qui est toujours à la technique avec nous. Votre émission sur Esprit Occitanie, vous écoutez une émission qui traite de l'actualité chaude des derniers jours à travers de l'œil de jeunes. Lilou, tu vas nous parler de ton sujet international.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'application mondialement connue Facebook. Celle-ci, habituée à la polémique, vient d'en lancer une toute nouvelle. L'application localiserait ses utilisateurs, alors ça on le sait, mais elle localiserait même ses utilisateurs qui auraient désactivé eux-mêmes manuellement la localisation. Alors la localisation, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite fonctionnalité du téléphone qui permet de vous repérer et de savoir où vous vous trouvez actuellement sur la planète. Alors cette polémique pose une nouvelle fois la question de la protection des données. Cette nouvelle, c'est Mark Zuckerberg, donc Facebook, qui l'a lui-même, qui a révélé dans une lettre au sénateur Josh Hawley et au sénateur Chris Coons. Alors, ces deux personnages qui sont sénateurs ont été choqués d'apprendre cette nouvelle et ils se posent la question d'une loi fédérale pour protéger les données. Ça serait une première dans l'histoire des GAFA. Et les raisons qu'ont donné Facebook pour encore, même avec la cloche désactivée, le fait d'avoir désactivé la localisation, encore collecter ces données, c'est principalement le ciblage publicitaire, vu qu'on sait que c'est la clé de voûte du modèle économique de Facebook, et aussi apparemment la sécurité. Alors, je ne sais pas en quoi, j'ai pas trouvé les informations. Et si ça peut en rassurer certains, Facebook ne localiserait pas les personnes jusque dans leur lieu de résidence, apparemment il dit qu'il s'arrêterait au code postal. Donc, je suis allée vous poser la question dans la rue, et voilà ce que vous en avez pensé.
Bonjour.
Bonjour.
Vous appelez comment ?
Pauline.
Alors, dites-moi, Pauline, est-ce que ça vous inquiète ?
Dans la mesure où les gens n'ont pas accepté, ça me paraît un peu étrange que ça soit quand même fait, oui.
On sait que la localisation, c'est des informations sur là où on vit, là où on est placé. Oui. C'est des informations qui, vous, dans la vie de tous les jours, vous préférez tenir secrètes ou pas du tout ?
Généralement, oui, plutôt. Après, ça tend à renforcer la puissance et l'image qu'on a de cette puissance à propos des cinq grands groupes qui possèdent absolument toutes les infos, toutes les données. Donc c'est peut-être stratégiquement un mauvais plan de leur part parce que ça nous donne l'impression que vraiment ils maîtrisent absolument tout. Ça contribue à les rendre encore plus effrayants.
Vous faites confiance à Facebook pour ce genre d'informations ?
Pas vraiment, et j'y suis quand même par défaitisme, on va dire.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez ?
Théo.
Alors Théo, dites-moi, est-ce que ce qu'a annoncé Facebook aujourd'hui, ça vous fait peur ?
D'un point de vue commerçant, vu que je suis responsable de magasin, non, parce que pour le ciblage de la publicité, ça m'arrange. D'un point de vue personnel, un peu moins, c'est parce que du coup, on peut être localisé n'importe où, n'importe quand. À n'importe quelle heure de la journée, donc ça c'est un peu plus gênant pour moi.
Ce genre de pratique, est-ce que vous serez prêt à donner ces informations à une entreprise comme Facebook ?
Non, parce que je sais jamais où ça va atterrir. C'est-à-dire qu'après, les données peuvent être revendues, ça peut être donné à des publicitaires, ça peut être donné à d'autres personnes. À partir du moment où on ne sait pas où les données vont arriver, je suis assez réticent justement à donner ce genre d'informations.
Facebook, c'est quelque chose que vous utilisez ?
Ouais, au quotidien. Ouais.
Et ça vous est utile encore aujourd'hui ou pas ?
Pour garder contact avec des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, oui, c'est plus un moyen de communication qu'autre chose.
Est-ce que vous aimeriez qu'on vous demande, étant donné que c'est caché, et que ça a été soulevé par des analyses journalistiques, est-ce que vous aimeriez qu'on vous demande l'autorisation pour ce genre de choses ?
Oui, mais étant assez sceptique, même si on me demande l'autorisation, j'aurais toujours en arrière-pensée de ne pas savoir pour atterrir les données qui sont enregistrées.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci Lilou. Et maintenant, place à notre première pause musicale.
Hey, boy. Boy, boy. de rap.
Hey boy, t'as capté le délire. Vu que j'ai des locks, ils me prennent pour un dealer. On a failli pas finir dans les délais. On est dans les bails, pas dans les délits. J'ai 2-3 cas local et dans le floc. Si on parle d'oseille, c'est qu'on aime les coiffes. J'ai confiance dans mes couilles et pas mes potes. Le premier qui pourra, il viendra me les couper. T'es au 2D de Konoha en personne. 4ème du nom qui m'avait dans le berceau. Insulte pas la concu si c'est tes potes. Je trouve ça mal, je viens tâcher mon lac. On se bat sur mon pote qu'on peut le faire en effet. En effet, c'est pas moi le prochain, c'est mes frères. Et on n'a pas élevé les cochons ensemble. On réussira là où tu vas échouer.
Hey, wesh, les pommes sont vrai gros.
Je crois que le chef il a zappé la sauce.
Il a zappé la sauce.
La tête de grand-mère, de toute façon la prochaine on ira au tacos. Les autres se sont hauts sur mon emploi du temps. Je suis plus mon prof de maths que maman. Et j'ai sûr qu'il compte. Je suis dans ma country boy. C'est la première ligne du compte. Hey, 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 hey. Je sais pas si t'as capté le délire. Je sais pas si t'as capté le délire. Je sais pas si t'as capté le délire. Les potos ont capté le délire.
De toute façon tu connais. Toujours présent si tu m'appelles. 6-4-0, je veux mon équipe au sommet. Un milliard de berries sur ma tête. Hey boy, t'as capté le délire. Les potos ont capté le délire. Hey hey, t'as capté le délire. Boy, t'as capté le délire. Boy, 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 boy.
On est dans les sauces. Je maîtrise l'arrogance, l'éloquence des poses. T'es au 2D, c'est ma tête sur le poste. Un milliard de berries de récompense post. Depuis le départ, ceux contre nous, ça va piquer si tu mets ton nez dans ma sauce. Je vais continuer, y'a des euros en jeu. Faudrait une nouvelle paire pour mes faux. Mais je suis dans mon délire, sapristi. Tu marches sur mes pompes, ça va pas. On envoie de la patate à Paris. Si j'ai la capélicica, Albator. On avance devant, pas de côte à côte. Même si je connais la somme, je recompte encore. Ils veulent faire la peau. T'es au 2D, bientôt le rappeur à la mode. T'as capté le délire, t'es un bon site, t'es là depuis le début. On est les meilleurs ici quand ça débite. Les anciens 7 contre les genoux qui débutent. Je sais pas si t'as capté le délire. Je sais pas si t'as capté le délire. Je sais pas si t'as capté le délire. Les potos ont capté le délire.
De toute façon tu connais. Toujours présent si tu m'appelles. 6-4-0, je veux mon équipe au sommet. Un milliard de riches sur ma tête. Boy, t'as capté le délire. Le peuple a bien capté le délire.
Lilou, parle-nous de ton sujet national.
Alors, pour mon deuxième sujet, je vais vous parler des grèves qui touchent la France. Après les gilets jaunes et le prix de l'essence, la nouvelle réforme des retraites n'a visiblement pas fait l'unanimité. De nombreuses manifestations avaient lieu mardi dans toute la France, au total des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Face à cette réaction, le gouvernement cherche des solutions avant les fêtes de Noël. La raison, de trop nombreux corps de métier manifestent. Parmi eux, les cheminots, enseignants, fonctionnaires qui sont habitués des manifestations, mais aussi les métiers du droit et de la santé. Aujourd'hui, je vous propose de vous concentrer sur les métiers dans les hôpitaux et pour comprendre les raisons de leur participation à la grève, je vous propose d'écouter une interview d'un aide-soignant.
Alors, est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, je suis Benoît Dupuis du syndicat Sud, membre CHSCT de Purpan Ouest. Et je suis aide-soignant aux urgences adultes de Purpan.
Alors, quelle est la situation actuelle ?
On n'est plus en mouvement, en grève ou en arrêt de travail pour fermer le service. L'équipe a décidé fin octobre d'arrêter le mouvement. On a toujours le préavis qui court, on ne l'a pas levé. Avec notre action, on a gagné 10 postes d'AS, enfin 10 postes, 10 soignants. On a un service qui est ouvert 24 heures sur 24, donc pour tenir une journée, il faut 2 agents, plus leur repos, etc. Donc en fait, c'est 3 postes sur le terrain H24. Ce qui fait qu'on a 11 nouveaux aides-soignants. Mais notre préavis demandait des médecins en plus et des infirmiers en plus, ce qu'on n'a pas obtenu. Du coup, on garde notre préavis de grève en disant que de toute manière, la solution n'est pas réglée. Et du coup, on pourra repartir en grève en évitant les délais. Dans la fonction publique, il faut, quand on pose un préavis de grève, il faut le poser 8 jours avant. Du coup, en laissant ce préavis, on peut rentrer en action dès le lendemain du problème qui déclenche un truc, quoi.
Alors, quel a été l'élément déclencheur ?
Alors, à Toulouse, l'élément déclencheur a été un décès suspect au fin janvier. C'est un décès suspect, c'est-à-dire ce qu'on appelle un décès suspect, c'est-à-dire qu'on pense que la prise en charge n'a pas été correcte. Le patient a été retrouvé dans une salle commune en arrêt cardiaque. Ils ont essayé de le réanimer. Et on l'a pas ramené. Du coup, le fait d'avoir ce décès a fait mobiliser l'équipe qui a dit on n'est pas assez nombreux par rapport à l'activité qu'on a et on peut pas prendre en charge de manière correcte les gens. Du coup, les gens meurent dans le couloir. Mais c'est une réalité qui existe dans d'autres services. Hein. On le voit dans les médias régulièrement. Aux urgences, on a tellement de monde que malheureusement, il y a des gens qui meurent sans soins. Donc ça, c'était en janvier. On a déposé un préavis de grève, pas rentré en action. On a fait des rassemblements, on a tapé sur des tambours, on a fait du bruit. Et c'en est resté là. L'interurgence, elle, a démarré en mars. Donc on avait déjà posé un préavis de grève. Et l'interurgence a démarré en mars à Paris. Et donc très vite, quelques agents du service s'est mis dans l'interurgence pour pouvoir suivre les actions de l'interurgence. Le décès suspect, quand il y a un décès suspect aux urgences, il y a une enquête qui est menée par l'équipe médicale pour savoir où il y a eu le problème. La direction n'a pas voulu nous donner cette enquête-là. Donc du coup, nous, paramédicaux, donc infirmiers et aides-soignants, on ne peut pas savoir où il y a eu le bug. Est-ce que c'est à notre niveau, est-ce que c'est au niveau médical? On ne sait pas. Donc du coup, on ne peut pas corriger le cas, enfin la situation. Et du coup, on peut se retrouver demain face à la même situation et avoir à nouveau un décès. Donc l'interurgence s'est mise en grève, s'est mise en mouvement, donc bon, c'était très suivi dans les médias. Le service, les agents n'étaient pas trop mobilisés chez nous. Et puis en juin, la direction, depuis 3 ans, travaille sur une réorganisation que le paradigme médical refuse. C'est une réorganisation où avant on avait des box pour chaque patient. Là, la direction a cassé des murs pour avoir des grandes salles de 8 patients qui sont séparés par des paravents. Et après, une organisation avec une sectorisation du service pour être pas trop compliqué. Le patient qui arrive chez nous, il va voir avec au minimum au moins 3 infirmières. Ce qui fait que pour nous, le travail ne devient plus du tout intéressant parce qu'il y a une infirmière qui pique, il y a une infirmière qui va soigner et une autre infirmière qui va s'occuper du transfert. Qui fait que l'intérêt du boulot, on ne suit plus le patient, donc il n'y a plus du tout d'intérêt. Donc cette réorganisation, elle a été mise en place à partir de juin, avec les travaux, en septembre, l'équipe ne pouvait plus supporter cette réorganisation, donc a décidé de se mettre en arrêt maladie, dû au stress, et à la situation qui est pas acceptable. Et du coup, on a fermé le service 3 jours sur 3 semaines différentes. Au bout de ces 3 jours, enfin, au bout de la 3e semaine, la direction nous a fait une proposition d'aide-soignant et l'équipe a voté en AG l'arrêt des actions.
Vous avez écouté le discours d'Édouard Philippe?
Bon, il faut bien se mettre dans la tête que c'est le 3e plan. Ce plan, il annonce, je ne vais pas énumérer toutes les propositions qu'ils font. Mais ils font une première annonce de 1,5 milliard d'investissement sur 3 ans, c'est-à-dire 500 000 euros pour acheter du matériel. Bon, ce matériel-là, on en a besoin, d'accord? Mais 500 000 euros par an, c'est rien du tout, c'est peanuts, hein, sur la France. Le budget de l'hôpital de Toulouse, c'est 1,4 milliard par an. Donc c'est vraiment rien du tout. Le budget de la sécurité sociale dans son ensemble, c'est 195 milliards d'euros. Donc ils nous jettent des cacahuètes, tenez, prenez, on va vous acheter 3 thermomètres et puis ça ira. Donc on n'en est pas satisfait. Ils proposent le rachat de la dette des hôpitaux à hauteur de 10 milliards. Bon, à Toulouse, la dette, je crois de mémoire, elle est, je vais peut-être te dire une connerie, mais 140 millions d'euros, je crois. Et je crois que l'hôpital paye 60 millions d'euros d'intérêt chaque mois. Chaque année, pardon. Donc la dette, elle doit être un peu plus. Et donc ils rachèteraient ils reprendraient ses intérêts. Ok, c'est bien, mais nos revendications, nous, c'est 3 points, c'est des effectifs en plus, c'est un meilleur salaire, on demande 300 euros d'augmentation, c'est uniquement le suivi de l'inflation en France depuis 10 ans qu'on n'a pas été augmenté. Et l'autre demande, c'est d'arrêter la fermeture des lits. Sauf que l'hôpital continue à fermer des lits. Aujourd'hui, là, l'hôpital, en 3 ans, ils ont supprimé 1 500 postes. Et ils continuent à fermer des lits. On a 8 lits qui sont fermés aux urgences psychiatriques. On a 9 lits qui vont se fermer en ORL, CMF, chirurgie maxillofaciale. Enfin, il y a des lits qui ferment de partout.
C'est quoi exactement la fermeture des lits, si tu peux
Alors,
l'expliquer pour les gens qui connaissent
c'est souvent
exactement?
des réorganisations où ils regroupent différents services. Et en regroupant ces services, ils sortent des lits. Et tout ça par rapport à une politique ambulatoire. Mais ça, c'est lié aussi à la T2, à la tarification à l'acte. C'est-à-dire que l'hôpital est payé au nombre d'actes qu'il fait. Donc si, par exemple, un sondage urinaire, ça vaut, je vais te dire des bêtises, hein, ça vaut 1 000 euros. Si l'hôpital fait 3 000 sondages urinaires, on aura 3 millions d'euros. Donc, ce qui amène l'hôpital à réfléchir, à se dire, bon, bah, si on peut en faire plus, autant le faire plus. Donc du coup, on réduit le temps de séjour à l'hôpital. Par exemple, dans le service des naissances, il y a 20 ans, une femme qui a accouché restait 7 jours à l'hôpital pour être surveillée, pour voir si elle s'occupait bien de ses enfants, pour voir s'il n'y avait pas des problèmes de gestion de l'enfant. Aujourd'hui, les filles, elles le font en même temps, sur 3 jours. Elles doivent identifier sur 3 jours si la famille est prête à gérer l'enfant à la maison. Donc, typiquement, ils réduisent le temps pour pouvoir faire plus de soins, pour pouvoir avoir plus d'argent. Et ensuite, il y a toute la politique ambulatoire qui est sur le même principe, hein, c'est-à-dire tu vas te faire opérer, je sais pas, d'une fracture. Avant, tu devais peut-être rester 3-4 jours en surveillance pour voir si ta plaie s'infectait pas, etc. Aujourd'hui, c'est possible que tu restes. Alors, je te donne des exemples, mais c'est pas, il est possible qu'on te fasse rentrer le matin et tu ressors le soir avec une infirmière libérale qui va te soigner. Mais si t'as un problème, il faudra que tu reviennes aux urgences pour qu'on te soigne et peut-être qu'on te réhospitalise pour te faire de bien te soigner. Mais du coup, pour l'hôpital, c'est tout bénef parce que le fait que tu sortes et que tu reviennes, ça te fait d'autres actes et du coup, ils peuvent refacturer à la Sécu.
Les urgences, alors je sais pas exactement si tu as les chiffres, mais les jours où c'est énorme, c'est combien de personnes à peu près qui
Alors,
rentrent, pour combien de médecins?
les urgences de Purpan, c'est entre 200 et 300 passages jour. On peut faire des pointes à 350. Il y a entre 4 et 5 médecins seniors. Et après, tu as des internes. Hein. Un interne par senior. Et après, tu as des externes. Donc, c'est ça, c'est 5 médecins par jour. Donc, tu fais le calcul. Tu te rends compte qu'ils voient beaucoup plus de monde qu'un médecin en libéral. Hein.
Et c'est quoi les horaires à peu près?
D'un médecin senior?
Oui.
Alors, il y a des médecins qui font des gardes de 12 heures, il y a des médecins seniors qui font des gardes de 24 heures. Pareil pour les internes.
Pourquoi quand on fait grève, on continue à travailler ici?
Alors, on est service public de santé. On ne peut pas dire on fait grève, on arrête tout parce que tu as des patients dans ton délit. On est soumis à des assignations. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire grève, mais on peut être assigné. Typiquement, moi, jeudi prochain, il y a la grève du 5. Donc, pour semaine gréviste, il faut les prévenir 24 heures à l'avance, quand ils respectent la loi. Parce que je pourrais te l'expliquer, de rentrer plus dans le détail, mais c'est catastrophique. Hein. Je travaille mercredi. Donc, il faut que je me déclare mercredi. Je vais travailler toute la journée. Et après, je serai gréviste. Sauf qu'ils ont toute la journée pour m'assigner. Donc, l'assignation, c'est un papier qu'on te remet en main propre. Donc, l'assignation, elle doit être remise en main propre. Et si t'es pas si t'es pas au boulot, tu peux pas recevoir de mail, tu peux pas recevoir de courrier, c'est un huissier qui doit te l'amener, voire la police. Ils doivent te le remettre en main propre. Si tu le mets dans la boîte aux lettres, t'es pas censé ouvrir ta boîte aux lettres, donc tu peux ne pas être assigné. Enfin, tu sors du cadre de la loi. Donc ces assignations, en fait, c'est pour que l'hôpital puisse avoir le minimum de personnel pour pouvoir gérer les patients qui sont dans leur lit. Sinon, ils sont obligés de les changer, soit de les transférer, soit de trouver des solutions.
Comment vous voyez le futur des hôpitaux et
Alors, le futur de l'hôpital, moi, je ne le vois pas très bien. Je pense qu'on est en train d'être dans une période où on va, ce qu'ils ont fait à La Poste, à France Télécom, on réduit le personnel le plus possible jusqu'à ce que le personnel ne soit plus efficace. Et puis on va dire, le public, ils n'arrivent pas à bien travailler, donc on va privatiser. Pour moi, là, l'avenir de l'hôpital, si nos politiques de santé continuent comme ça, ils vont faire comme ce qu'ils vont faire à EDF, c'est-à-dire privatiser les bénéfices. Quand je dis privatiser les bénéfices, c'est toutes les pathologies qui rapportent de l'argent. La cardiologie, la neurologie, ça va être les cliniques qui vont le prendre. Et l'hôpital public va garder tout ce qui est médecine sociale, tu vois, la médecine des gens pauvres, SDF, la psychiatrie, qui rapporte pas d'argent, parce que c'est des patients qui vont revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que tu pourras pas soigner, et puis ça coûte rien, parce que c'est souvent des patients qui n'ont pas d'argent. Donc pour moi, ça va être une privatisation de l'hôpital et après, les gens comme toi et moi, si tu as une mutuelle, tu seras pris, si tu n'as pas de mutuelle, tu seras pas pris. Ce sera comme aux États-Unis. Et ça coûtera très cher. Une prise en charge aux urgences, il me semble que c'est 1 500 euros. Tu rentres aux urgences, on te pose une perfusion, même si c'est pour 3 minutes, hein, c'est 1 500 euros.
Il y a beaucoup de médecins grévistes.
Nous, on n'a pas eu de médecin gréviste. Par contre, les internes sont en train de bouger. La manif qu'il y a eu le 14 novembre, qui a été vraiment très grosse, hein. À Toulouse, je crois qu'il y avait 3000 personnes, ce qui est énorme, hein, sur une manif, alors qu'il y avait un appel national. Moi, j'ai fait la manif à Paris, où là, c'était vraiment énorme. Et dedans, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'internes et de médecins. Mais les internes, c'est eux qui tiennent l'hôpital, globalement. Tu vois, je te dis, il y a 5 seniors sur mon service, mais mon service, il est coupé en plusieurs tranches. Et la tranche la plus importante, c'est les patients qui arrivent couchés. Là, il y a 2 seniors qui vont gérer, je ne sais pas, peut-être 150 patients. Du coup, c'est les internes qui font les prescriptions et qui soignent, quoi, réellement. Les seniors sont juste là pour superviser, pour voir s'il n'y a pas un problème. Du coup, ces gens-là, ils sont payés 1 500 euros pour faire le même travail qu'un médecin. Et c'est une vraie exploitation. Comme je te disais, ils ont des horaires de fou, ils ont leur cours aussi à préparer. Une pression à l'université quand même énorme pour avoir ta place. Mieux t'es classé à l'université, plus t'as de chances de choisir ta spécialité, la spécialité que tu veux. Plus t'es haut dans ton classement à la fac, plus tu peux choisir ta spécialité. Et donc moins t'as ta spécialité de merde, quoi. Donc ils sont en concurrence tout le temps, quoi.
Est-ce qu'il y a une fuite des médecins dans le privé?
Ah oui, très clairement, parce qu'ils sont mieux payés dans le privé que dans le public. À l'inverse de
Grosse
nous.
différence?
Ah ouais, je pense. Et puis après, ils n'ont pas de garde. Je peux pas te dire la différence, hein, mais ils n'ont pas de garde. Ils ont ils choisissent leurs patients. Après, c'est une histoire de déontologie. Enfin, soit tu deviens médecin et tu suis le serment d'Hippocrate et tu soignes tout le monde. Soit tu es médecin, tu as envie de faire de l'argent. Ou d'être tranquille et tu vas dans le privé.
Vous participez à la grève le 5 décembre, en gros,
Ouais, on participe à
ça va
la
consister
grève.
à quoi?
La grève, alors c'est un appel d'abord sur la réforme des retraites, mais c'est aussi tout sur la protection de la sécurité sociale. Donc la santé, tout ce qui est en cas de la sécurité sociale. Du coup, on y est à fond, quoi. Donc voilà, le 5, c'est super important. Je pense que nous, on a beaucoup travaillé sur l'hôpital, à faire des tables rondes, enfin des tables d'information, à diffé. Je pense que les gens n'ont pas trop conscience. Les médias travaillent beaucoup sur les privilégiés de fonctionnaires de la SNCF, de la RATP. C'est 3% de la population. Et c'est des caisses de retraite qui tournent toutes seules. Hein. Ils s'autofinancent et il n'y a pas de trou. C'est fait retomber tous ces gens-là dans le système normal où la sécurité sociale en dit qu'il y a un trou, mais il faut voir le financement de la sécurité sociale, comment il a été amputé, quoi. Donc, je crois qu'il y a des études qui sont sorties très clairement. La sécurité sociale serait viable si on n'avait pas amputé tous ces financements. Donc, c'est un faux problème, c'est un problème que l'État a créé lui-même, quoi.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'un patient qui se présente à un moment où il y a beaucoup de monde, il est bien encadré?
Alors, quand il y a beaucoup de monde, alors le dernier gros pic d'activité dont j'ai connaissance, moi, c'est il y a 3 semaines, on avait 120 patients en salle d'attente. 120 patients. On a des temps d'attente qui montent jusqu'à 5 heures. Donc, te dire qu'on va bien s'occuper de lui alors qu'il attend 5 heures, non, c'est pas possible. Notre service a pris 20% d'activité en plus, on n'a pas pris de soignants en plus. Et la ville de Toulouse, c'est 20 000 habitants de plus par an. Donc forcément, on aura plus de demandes. Et forcément, notre activité va augmenter. Mais tant qu'on n'aura pas de personnel en plus, tu vois, c'est pas possible. Donc quand t'as que une demi-heure, 20 minutes par patient, des patients qui arrivent en phase aiguë, qui ont très mal, qui sont perdus, qui ont besoin de réconfort, et que tu peux pas leur apporter, ça amène de la violence. Et ça amène des agents qui se font taper dessus, qui se font insulter. Et ça, c'est clairement un signe qu'on les prend pas bien en charge, quoi.
Je suis allée discuter avec des étudiants en médecine, m'expliquer que aujourd'hui, quelqu'un qui travaille aux urgences, il n'a même pas le temps d'aller aux
Non,
toilettes.
c'est ça.
Est-ce que
C'est ça.
c'est vrai?
C'est oui, c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'il y a des filles enfin, des filles, je sais pas pourquoi je te dis des filles, hein, mais on n'a pas le temps. Aujourd'hui encore, les filles, elles commencent à 7 h. À 14 h, il y en avait qui n'avaient pas encore pu prendre leur pause de repas, quoi. Donc, si tu ne peux pas déjà prendre ta pause de repas, le pipi, tu attends un peu, quoi. Mais c'est vraiment des situations comme ça où tu fais le choix entre avoir mal au ventre parce que tu as envie de pisser ou soigner la personne qui a mal au ventre parce qu'il a mal au ventre, quoi. Et on le fait pour soigner les gens. Enfin, c'est un don de soi, quoi. Donc, bah, tu te jettes à corps perdu. Comme le service est très difficile, on a une équipe assez soudée où on fait des soirées, on peut en discuter, où on peut se faire des débriefs de 5 minutes. Mais c'est réellement difficile, hein. On a eu beaucoup de nouvelles infirmières jeunes diplômées en juillet. On en a eu qui ont craqué au bout de 2 mois. J'ai des collègues qui ont été diplômés, qui ont fait 3 heures d'urgence et qui sont partis. Il y en a une qui est même partie dans le prêt-à-porter, quoi.
Étant donné que les études en médecine, après, c'est peut-être un cliché, je ne sais pas, tu vas me dire, c'est beaucoup de par cœur, beaucoup de réflexion, mais sur des mathématiques, des sciences, etc. Est-ce que, les personnes qui arrivent sont bien formées à ce qui les attend?
Alors, elles sont bien formées sur tout ce qui est anatomie, pathologie, tout ça. Par contre, la prise en charge psychologique, je ne sais même pas si on a des heures de cours là-dessus, quoi. Donc, tu te retrouves confronté avec des médecins qui n'ont aucun tact et qui vont te dire bah, si tu as mal au ventre, bah, c'est de ta faute, tu n'avais qu'à prendre tes médicaments. Si tu es schizophrène, tu n'as qu'à arrêter de fumer des joints et tu seras un moins fou. Ils sont pas du tout dans. Enfin, ça se voit très clairement, même à la télé, tu vois, il y a certains clichés. Alors, je te parle pas des séries américaines, machin, c'est du violon. Mais ils ont aucune formation pour ce qui est l'accompagnement psychologique de la personne, même vis-à-vis des familles, hein. Des fois, c'est très très dur. Du coup, il y a de la violence qui s'exprime aussi auprès des médecins. Mais ils n'ont pas de formation là-dessus. Mais c'est pareil pour les infirmières ou les aides-soignants, hein. On t'apprend à faire des soins, on t'apprend à être une machine, quoi, tout simplement. On
Et
t'apprend
puis,
pas à accompagner.
est-ce que vous avez le droit à avoir des psys, un accompagnement psychologique?
Ouais, l'hôpital a une. Alors, au sein de l'hôpital, il y a des psychologues, mais les agents, ils ont du mal à aller voir quelqu'un de l'hôpital. Ils pensent qu'il y a un lien avec la direction, ça craint. Donc, l'hôpital a un contrat avec la maison de la psychologie à Toulouse, où les agents peuvent rencontrer des psychologues. Ça se fait très peu. Les agents, le cas pour eux. Un soignant qui est. Enfin, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, quoi. Un soignant qui est en souffrance au travail, il ne va pas le dire, parce que c'est un soignant, il ne peut pas être en souffrance, sinon il ne peut pas s'occuper d'un patient.
Enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont syndiqués ou c'est beaucoup de gens qui sont
Alors,
infirmières
ça, je peux pas trop te. Même le syndicat, enfin, les adhésions à l'hôpital, je ne sais même pas combien c'est de personnes, mais c'est très très peu. Les médecins, dans mon service, je pense qu'ils sont pas du tout syndiqués. Après, ça se dit pas trop, c'est un milieu un peu particulier où il y a quand même une hiérarchie très importante et où si le médecin veut rester et va avoir un poste à l'hôpital, il faut pas trop qu'il fasse de bruit, quoi. Donc, on sait qu'on a des médecins qui sont conscients de la situation, mais ils ont le cul entre deux chaises, quoi. Est-ce que je paye ma carrière à l'hôpital et je j'ouvre ma bouche et je défends mes trucs et je me fais virer parce qu'ils sont sous contrat jusqu'à je sais pas quel âge, quoi. Ou est-ce que je baisse la tête, j'attends et j'aurai mon poste genre au SAMU, genre je sais pas où. Donc il y a très très peu de syndicats. Il y avait un médecin qui nous avait demandé il y a 2 ans, on avait cherché, en fait on n'avait rien trouvé, quoi. On l'avait envoyé sur les fédérations à Paris.
Toi, personnellement, tu es syndiqué. Est-ce que tes supérieurs le savent? Et est-ce
Ouais.
que tu as déjà subi des pressions? Ou pas
Non.
du tout
Non. Non. Après, je tant que j'étais contractuel, je l'ai jamais dit. J'ai signé que quand j'étais titulaire. Et après, c'est toujours pareil. Comme je te disais, dans le service, on est une équipe assez soudée. Donc les cadres ont vite compris qu'on n'était pas là pour les faire chier et que si on se battait pour avoir des postes en plus, eux, ils étaient que plus heureux. Donc il n'y a pas de conflit par rapport à ça.
Donc, en gros, ceux qui sont vraiment tout en haut, ils poussent vers un monde un peu plus vers l'argent, mais il y a beaucoup de personnes qui sont humains, qui sont dans l'humain au
Ouais,
sein de l'hôpital.
oui, bien sûr, bien sûr. Les directions aujourd'hui sont recrutées en école de commerce, quoi. Moi, je suis un ancien commercial. Je me retrouve dans des réunions où j'ai l'impression de parler de chiffre d'affaires, d'offres concurrentielles de soins, comment ils appellent ça? Ils disent pas réduction de personnel, mais rendre le personnel plus efficace, etc. C'est des gens qui regardent que les chiffres, quoi. Quand on leur dit que faire une prise de sang à quelqu'un qui est stressé, ça se fait pas en 2 minutes, eux ils l'entendent pas quoi. Une prise de... Si le soin, la sécurité sociale a dit ça dure 20 minutes, ça dure 20 minutes. Si ça dure plus longtemps, tant pis pour toi quoi. Ils ne prennent pas en compte. Si tu passes 5 minutes auprès d'un patient qui fait une dépression et qui est pas bien, ça c'est pas payé par la Sécu quoi. Donc ça les intéresse pas. Donc on est vraiment sur du chiffre quoi. Et très clairement c'est la vision de Monsieur Macron quoi. On est sur de la thatchérisation quoi. Ce que les Anglais ou les Américains sous Reagan ont connu dans les années 80, on est en train de le vivre aujourd'hui. Si tu veux, aujourd'hui la médecine elle n'est pas comme la sécurité sociale inventée en 46 avec des gens qui mouraient à 70 ans, tu vois. Aujourd'hui, les gens ils meurent à 90 ans. Ils ont des pathologies chroniques. Alors ça peut être Alzheimer, mais le diabète par exemple est en pleine explosion. C'est des patients qui ont besoin de soins réguliers, des suivis, et du coup ça coûte de l'argent. Ces pathologies-là coûtent de l'argent. Donc en fait, c'est plutôt revoir le système de santé avec peut-être des maisons médicales un peu partout espacées, enfin à la campagne, tout ça, pour que les gens puissent être suivis et ne viennent pas sur un gros centre comme Toulouse. Mais c'est pas le cas, ils ferment des hôpitaux à l'extérieur, donc tout le monde vient ici, et là tu peux pas soigner tout le monde, quoi.
Et finalement, à moi de vous présenter mon sujet local. Alors c'est ce samedi, la crèche vivante organisée par l'association Vivre Noël Autrement à Toulouse, qui a été interrompue par une dizaine d'individus se déclarant, je cite, anticapitaliste. L'événement divise au sein même de la communauté catholique locale. Certains pratiquants en dénoncent l'influence traditionnaliste. Il est 15h, samedi 14 décembre, lorsque la crèche vivante installée place Saint-Georges est interrompue au cri de « Stop les fachos » par une dizaine d'individus. Au fil des minutes, la situation dégénère. D'autres manifestants, se revendiquant de la mouvance anticapitaliste, rejoignent le groupe et montent sur scène, et c'est donc une bousculade qui débute. Je cite « Pour nous, il était difficilement identifiable. Par exemple, il ne portait pas de gilet jaune, explique Erwan Desmoulins, qui est en charge de la communication de l'association Vivre Autrement Noël à Toulouse. Ils ne se sont pas contentés d'empêcher le déroulement de la crèche et de crier stop aux fachos. Ils sont aussi prononcés des slogans anti-Macron, anti-réforme des retraites, contre l'Église, contre les catholiques. Un membre du site local d'extrême droite Info Toulouse, présent sur scène, assure avoir été également agressé. C'est donc dans la rue que je suis allée pour poser la question aux passants pour savoir ce qu'ils en pensent.
Donc ça me paraît quand même un peu abusé d'interdire une manifestation religieuse, puisque chacun peut quand même faire ce qu'il veut, surtout que apparemment la manifestation a été annulée à cause d'anticapitalisme, ce qui pour moi n'a aucun rapport avec la religion.
Moi je dis que pour moi je suis un peu choquée que ça se passe comme ça, parce que pour moi on n'a pas à interdire, même si on n'est pas d'accord sur le principe, on n'a pas à l'interdire. Puis en plus je vois pas trop le côté avec l'anticapitalisme, je trouve pas du tout la relation qu'il peut y avoir avec ça déjà. Et on est à une période justement où on veut le respect des cultes, on veut le respect de chacun. Je vois pas pourquoi on agit comme ça. Moi non, moi ça me choque, franchement, je suis très choquée par ça. Autant on n'a pas à intervenir sur une crèche vivante qu'on irait intervenir sur d'autres, que ce soit une autre religion ou autre. Je veux dire, on respecte les gens, on respecte ce que je fais chacun. Et le côté capitaliste là-dedans, je le vois pas. J'ai un peu de mal à le trouver. Voilà.
Place à Hugo pour sa seconde pause musicale. Je te laisse le micro pour nous présenter ton choix, Hugo.
Ouais, salut Lilouchana. Aujourd'hui, je vais vous parler. En fait, je vais même pas vous parler. Je vais juste vous laisser écouter Silas. Ça s'appelle Season et on écoute ça tout de suite.
Hey, look, yo, yo. Cold winters, but you know I never hesitate. Living like today my last, word to Groundhog Day. Cause I found that in my mental stress and I could go and roll some herb. Let me count my blessings, if you spreading love for real, you gonna take this message. I done seen it all, wondered if this really y'all. Thinking about it, God, thinking I won't be alive.
thinking I would hit the pen. 60 cents to call my kin, thinking that we wouldn't amount because of funds and bank account. Baby, let me break this down. Hold up, let me break this down. I got one life to live, so motherfucker, I'ma live it till my heart stop beating and your boys stop breathing. Whether that shit is tomorrow or I got a couple seasons, I'ma kick the realest shit just so you know your boy legit. I was raised up off the legends, talking knives. Big L, dog, you know it's where the tribe. On us a war tour, so you know I have arrived. Motherfucker, how you feel? Roll around, top down, never hear cop sounds. It's like, motherfucker, how you feel? Motherfucker, how you feel? Motherfucker, how you feel? Motherfucker, how you feel? Roll around, top down, never hear cop sounds. So you know the block down. It's like, motherfucker, how you feel? Tell the truth, man, how you feel? Tell the truth, man, how you feel? What's the question, homie? I just speak the essence, though. Dilla on the beat, got me feeling something special, though. Living and striving and working for mine. Nothing is given, just passing the time. Know that you feel me, I got this for really. Ain't doing this here just to go make a milli. I take you back to root shit, rapping on the stoop shit. Hope they feel the music, my folks are gonna lose it. Killing shit to fill a void, baby girl, just feel this flow. Never know like where to go, when this life get difficult. Education, this inflation, got me thinking when I make it. Real estate gon' fill my plate, these labels want the easy way. Taking back the E and Easy Mac, my Mac and really ain't easy. That's rest in peace to Mac Miller. I used to wanna be in packing Macs inside my backpack. People said it wouldn't happen if you make it with this rapping. Treat them all like you ain't have it, cause it's dope money, money, show money, honey. They be sniffing Snow Bunny with that stay afloat money. Motherfucker, how you feel? Roll around, top down, never hearing cop sounds. It's like, motherfucker, how you feel? Motherfucker, how you feel? Motherfucker, how you feel? Motherfucker, how you feel? Roll around, top down, never hearing cop sounds. So you know the block down. It's like, motherfucker, how you feel? Tell the truth, man, how you feel? Tell the truth, man, how you feel? It's like,
je vais maintenant vous parler de mode. Oui, de mode. Si je vous dis Sonia Riquel et Showroom Privé, sachez que deux des fondateurs de Showroom Privé vont relancer la maison Sonia Riquel, la célèbre marque de prêt-à-porter, liquidée en juillet dernier faute de repreneur, va finalement être relancée par deux des fondateurs du site d'e-commerce Showroom Privé. Le 25 juillet dernier, Le Monde apprenait la liquidation de la maison de prêt-à-porter Sonia Riquel, faute de repreneur. Après 51 ans d'existence, l'iconique Cri française fermait donc ses portes, 3 ans après la disparition de la créatrice de mode, l'enseigne qui porte le nom éponyme de la femme qui a créé il y a 51 ans cette marque de renom. Mais le feuilleton judiciaire que représente sa fermeture s'est finalement terminé sous une note d'espoir. Ce mardi 18 décembre, Eric et Michel Dayan, fondateurs du site d'e-commerce Showroom Privé, ont racheté les droits de la marque française. Le tribunal a donc tranché entre la vingtaine d'offres pour acquérir les actifs restants de la marque, à savoir son nom et ses archives. Ce sont finalement les deux frères qui ont été choisis pour relancer la marque. Leur objectif, faire rayonner la maison Sonia Riquel en France et à l'international, qui reste ainsi un fleuron du patrimoine français, précise-t-il dans un communiqué. La maison, célèbre pour sa maille et ses rayures colorées, sera de retour dès 2020 en France et à l'international. En 2012, la créatrice de mode avait cédé 80% du capital de sa société au fonds d'investissement chinois Fundbrand, ce qui n'avait pas pour autant réussi à sauver la marque. Après avoir vu son chiffre d'affaires décliner pendant plusieurs années, celui-ci a atteint le seuil de 35 millions d'euros en 2018, avec presque autant de pertes. Et comme on peut le savoir, 35 millions d'euros, c'est un chiffre d'affaires qui est très bas pour une grande enseigne comme Sonia Riquel, qui reste quand même une marque de luxe française. Le rachat de la marque par Eric et Michel Dayan va donc permettre à la marque de redevenir française. C'est une bonne nouvelle pour la France et surtout pour la mode française, qui compte déjà de nombreuses marques connues à l'international. Et je me suis également rendu dans la rue pour avoir l'avis des passants sur cette marque de luxe.
C'est une bonne idée que les entreprises qui ont des moyens puissent racheter des petites entreprises qui ont des problèmes financiers. En plus, si ça leur permet de sortir la tête de l'eau, ça peut être que positif.
Bon, moi j'étais pour garder donc Sonia Riquel, parce que c'est une grande marque, et sur Toulouse, on s'aime plus quand même, parce que si les grandes marques partent, show privé évidemment, c'est sur internet, donc c'est complètement différent. Non, je suis pour garder le luxe, enfin certaines boutiques en luxe, oui. C'est dommage, je trouve un peu ralent, mais bon.
Je suis désolée de vous annoncer que l'émission touche à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de L'Oreille sur l'Actu, avec cette fois, Lilou qui sera aux commandes.